Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, un maître d'école demande à la classe « Dessine-moi un dieu ». La petite gamine aux cheveux bleus s'exécute, un homme forcément, vieux forcément, sage forcément, avec une barbe blanche forcément. Mais le maître lui conseille de se méfier des forcément et des certitudes. La gamine efface tout sur son cahier à spirale. Elle dessine un papillon qui s'envole sans dieu ni maître d'école. Dans tes rêves, tu passes ton temps au lit, à mater le jour du Seigneur et fait entrer l'accusé. Tu adores zapper d'un blabla à l'autre, ça te repose de ta sieste, la cinquième depuis ta grasse mat. Mais quand on aime, on ne compte pas, surtout pas ta semaine libre de 35 heures à buller, senti-chef de la culpabilité et de la rentabilité. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier est écrivain, cinéaste, prix Goncourt. Il se dit réfugié culturel. Dessine-moi un dieu, c'est une BD pas seulement pour les enfants, avec ses mots à lui et les dessins de Bruno Salamone, et c'est chez Actes Sud Junior. Bonjour, bonsoir, Atik Raimi.
Bonsoir.
Dessine-moi Dieu.
Un dieu.
Un dieu. Titre malicieux, c'est de vous ce titre-là ou...
Oui, un peu.
Un peu quand même.
Oui, parce que avec tout ce qui s'est passé, malheureusement, ces derniers temps, donc je me suis dit, poser la question, en effet, de comment ça se passait chez les enfants, comment eux, ils se représentaient Dieu. Et en fin de compte, on a vu qu'on leur impose notre manière de voir le monde, notre vision de Dieu, etc. Donc, j'aime bien que les enfants partent avec des questions simples.
Et peut-être que les enfants sont moins moutons, dessine-moi un mouton, que certains adultes d'ailleurs par rapport
exactement,
à ces croyances-là.
Exactement.
Mais heureusement, il y a des maîtres d'école qui disent « méfie-toi des certitudes et laisse faire ton imaginaire aussi un peu ».
Tout à fait. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment la remise en question de cette représentation, de toutes ces certitudes à l'égard de Dieu. Moi, je viens quand même d'une culture musulmane de l'Afghanistan, malgré que j'ai vécu dans une famille très libre. J'avais un frère communiste, un père monarchiste, une sœur féministe, etc.
Ouais.
Donc, mais quand même, ça a permis de me poser beaucoup de questions sur la religion.
Mon second invité se pose aussi pas mal de questions. Il se définit comme un philosophe balnéaire, sans qualité, sans cause et sous Prozac. J'adore. Il revendique la glande existentielle à Biarritz, qu'il surnomme la capitale de l'ennui, ce qui plaira à ses habitants. Journée perdue, c'est son dernier essai, très personnel, et c'est aux éditions Séguier. Bonjour, bonsoir, Frédéric Schifter.
Bonsoir.
Vous êtes sans concession avec vous-même.
Oui, il faut l'être, hein, mais je m'aime beaucoup et qui aime bien châtie bien.
C'est
donc
ça.
Voilà, donc non, et, ben oui, sinon si l'autodérision ne se pratique plus, c'est le fanatisme justement.
Ouais.
Je crois que le fanatique se définit comme étant le pauvre type qui ne sait pas pratiquer l'autodérision.
Hein, l'arme de l'humour.
Et oui, c'est le sérieux criminel. Hein, voilà, donc. Alors qu'il vaut mieux effectivement être un peu sévère avec soi et peut-être pas un peu moins avec le monde, mais en tout cas on arrive à une balance intéressante.
Ce type dans mes rêves qui mate le jour du Seigneur et fait entrer l'accusé, je l'ai pas inventé, hein.
Ah non, mais j'adore ces émissions. J'adore ces émissions parce que
j'adore le lien, moi, surtout entre les deux.
Non, parce que bon, le jour du Seigneur, pour moi, c'est tellement exotique, si vous voulez, de voir les gens parler de Dieu, de leur foi, etc. Toutes choses que je respecte par ailleurs, mais je me sens tellement étranger à ça que c'est comme si je regardais un documentaire animalier, si vous voulez, un peu, vous voyez.
Et faites entrer l'accusé aussi.
Alors faites entrer l'accusé, là, c'est pour une autre raison, parce que faites entrer l'accusé, c'est une émission, moi, qui me rappelle un peu ce que Freud disait à propos de l'inquiétante étrangeté, qui est en réalité une inquiétante familiarité. Alors, faites entrer l'accusé, c'est l'émission qui vous dit que, attention, il faut se méfier des gens les plus proches, ceux qui vous aiment le plus, parce que ce sont ceux qui vont vous trucider en priorité, d'accord? Cette vieille dame là du quartier qui faisait ses courses tranquillement, elle a empoisonné ses maris. Enfin.
Et là, la réalité dépasse vraiment la fiction. Pour
ah bah oui, mais l'humain, c'est ça. Ce sont des émissions qui disent pas mal de choses sur l'humanité, peut-être sans le vouloir, mais en tout cas, elles le font.
Alors c'est votre première rencontre dans la vraie vie, Atik Raïmi, Frédéric Schifter. Chacun a sa boîte à outils. La poésie, la fable, on en reparlera. Est-ce que boîte à outils, ça vous va? Est-ce que le mot pour soit réparer, déboulonner ou enfoncer le clou, ça cause à Atik Raïmi, par exemple, la notion d'outil, de boîte à outils pour affronter le réel ou le bricoler autrement à travers.
Bah écoutez, j'ai voilà un crayon et puis mon carnet, carnet intime. Exactement, voilà. J'en ai besoin que ça. En effet, pour prendre la distance, pour réfléchir, pour écrire, pour justement fouiller dans ma mémoire ce que j'ai vécu même l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans. De temps en temps, j'ai des souvenirs et ces boîtes à outils, ça me sert. Donc, il y a la mémoire aussi qui fait partie de cette boîte à outils.
C'est drôle parce que Frédéric Schifter, dans votre livre, vous dites dans la vie, il y a deux catégories d'hommes et de femmes. Ceux qui ont un journal intime ou ceux qui ont un agenda.
Oui, qui ont un agenda où ils notent tous leurs rendez-vous professionnels, toutes les tâches qu'ils doivent accomplir, etc. Et puis, il y a ceux qui ont avec eux, non pas un agenda, mais une espèce
Ah oui, vous avez tous les deux les deux petits carnets.
Oui, des petits carnets où ils notent des réflexions, des humeurs que l'on glisse dans la poche. Et c'est un appendice très, 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 très important. Je serais très malheureux de perdre mon carnet, parce qu'il y a des choses très intimes.
Sans être indiscrète, justement, c'est quoi la dernière petite note que vous avez griffonnée l'un et l'autre? Ça se trouve, c'est une liste de courses, en fait.
Moi, c'est toujours... d'abord, j'écris en persan.
Ah oui.
Mais de gauche à droite. Alors que en persan, c'est de droite à gauche.
Ah ça, vous avez mixé.
Oui, tout simplement parce que en persan comme ça, d'abord personne ne sait ce que j'écris.
Oui, c'est ça. C'est codé.
Oui. Et puis aussi, c'est mon lien avec ma culture d'origine aussi. C'est vrai que je parle très peu du persan, ma langue maternelle, et c'est le seul lien. Et comme ça, je n'oublie pas. Je travaille plus comme ça avec mon inconscience qu'avec ma conscience.
Ouais, ouais.
Donc, je me permets de dire les choses que je peux pas dire dans la vie courante.
Sans interdit. Le philosophe qui revendique les journées sous forme de pause, de sieste et de non-obligation sur son journal intime.
Oui, la flemme. Alors la flemme, vous savez, c'est une paresse, mais une paresse pathologique. Beaucoup de gens sont paresseux. Je pense même que c'est une tendance naturelle chez l'humain.
Le fameux fainéant dont on parle
autant. Oui, c'est le fainéant, voilà. Ouais. Oui, alors mais c'est et le flemmard que je suis, hélas, ou tant mieux, je n'en sais rien. C'est vrai que c'est pathologique, c'est-à-dire que tout d'un coup, il faut faire quelque chose et ce quelque chose semblait être intéressant et puis rien que de devoir le faire, tout d'un coup, ce quelque chose perd tout intérêt, tout charme.
Ouais.
Et il n'y a qu'une solution qui s'offre à vous, c'est retourner se coucher.
Il est encore un petit peu tôt. Vous avez ce genre, la notion de journée perdue, de journée gagnée, journée rentable.
J'aimerais bien.
Vous êtes plus pressé, vous êtes dans une histoire d'obligation ou vous laissez aussi du temps au temps alors que vous êtes.
J'essaye. C'est vrai que moi, j'ai vécu très jeune en Inde et l'Inde m'a appris justement comment de temps en temps rester sans rien faire, réfléchir sur petites choses, un petit moment de sa vie, etc. Mais depuis que je suis en France, non, je suis entré justement dans cette vie hyperactive. Donc, et pourquoi tant de choses à faire? On n'a pas besoin. Voilà, il faut se donner ce moment-là où tu sortes, entrer dans une sorte de méditation, de réfléchir tout simplement, de ne rien faire. Juste goûter du thé.
Oui.
À Biarritz.
C'est tout le paradoxe de l'existence. C'est la brièveté de l'existence et ce rien ne presse qui relativise finalement peut-être tout ça.
C'est une folle course. On prend le temps du temps ce soir avec vous, messieurs, jusqu'à minuit. Vous aussi, vous pouvez poster vos songes d'une nuit ou vos utopies d'une vie sur notre page Facebook Dans tes rêves, la rêve partie anti-blues du dimanche soir avec le gang des rêveuses Marie-Hélène Fauquet, Nada Chougui à la préparation, Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir à la technique, c'est notre rêveur Kevin Pelot. Belle soirée. Only a man. Only a man, only a man, frozen in time, only a man. Feel the death grip, fear wrap around your petrified eye. Nowhere to make a stay, you wanna run and make a brand new start. I'm lost, feels like everywhere you go. Another terror awaits. Yeah. And no matter what you change, all the pain and everything stays the same. I'm not only a man. Only a man. Only a man. Strange fruit on the vine. Only a man. Only a man. C'est Sam Nittle sur France Inter.
France Inter.
L'entraînement n'est rien. Seul compte la volonté.
Si tu parviens à dépasser ta condition d'homme, si tu te consacres à un idéal, tu deviendras tout autre.
Dans tes rêves, Laurence Garcia.
Es-tu prêt à te lancer ?
Dans leurs rêves ce soir avec l'écrivain Atik Raimi et le philosophe essayiste Frédéric Schifter. Comme à chaque fois, messieurs, nous explorons l'imaginaire de l'enfance, de votre enfance. Je vais commencer par vous, Atik Raimi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement. Donc vous êtes né à Kaboul dans une famille plutôt instruite, cultivée, bourgeoise. Un papa qui était juge à la Cour suprême, hein, c'est ça ?
Au début, gouverneur. Ensuite,
gouverneur, voilà. Et une maman qui a ouvert une des premières écoles pour filles.
Oui, c'est à ce moment-là, mon père, il était gouverneur dans les vallées de Panchir, la vallée, oui, de Massoud, à ce moment-là. Et ma mère, elle était enceinte de moi, donc... Et là, elle a ouvert une école pour les filles, dans sa maison. Et malheureusement, c'était très très mal passé, parce que les gens se révoltaient. Pourquoi?
Déjà,
ah bah oui, ah oui, parce que c'était pour les jeunes filles.
Oui.
Tout ce qu'on dit à propos de Massoud, bon, ça va, mais on a vécu justement une violence pas possible dans ces vallées-là. Et puis, arrivé à Kaboul, donc, mon père, il a laissé tomber justement son poste de gouverneur. Et puis, voilà, ma mère a repris ses cours parce qu'elle était institutrice aux Beaux-Arts. Donc moi, je suis né dans cette ambiance-là.
C'est ça. Enfant de la culture mixte, vous le disiez, un papa monarchiste, un frère, oui, communiste. Est-ce que pour vous, la littérature, enfin avec du recul, parce que quand on est môme, est-ce que la littérature, c'était le moyen de trouver votre place, justement, entre les engagements, les croyances, les dogmes des autres?
Ah oui, parce que moi, j'étais dans la famille troisième, oui, donc enfant. Et avoir une sœur aînée féministe, engagée de gauche, et un frère communiste, tout aussi très très engagé. Et mon père, malheureusement, qui était parti en prison à ce moment, parce que comme il était monarchiste, avec le coup d'État de 1973, donc elle était en prison. Et en effet, moi je devais trouver mon chemin entre tous ses frères et parents. Donc, moi, je suis devenu ni monarchiste, ni communiste, mais anarchiste. Donc,
c'était le seul. Ni.
Oui, parce que c'était le seul.
Vous n'aviez pas le choix.
Non. <C'est ça. rire> Et donc, voilà. Et j'écris très jeune. Je commençais à écrire. J'écrivais des poèmes. Et ensuite, j'ai dessiné. Je faisais des calligraphies. Toujours. Je me réfugiais dans d'autres choses,
c'est
en
ça.
Effet.
D'autres mondes.
Le monde politique, je m'en m'ai mis beaucoup en distance par rapport à tout ça. Et cela à cause de l'emprisonnement de mon père, bien sûr. Et la religion non plus. Donc, parce qu'on était d'une famille dans laquelle la religion n'avait pas sa place importante. Mon père, il était capable même de boire énormément, de mettre le tapis de prière devant les invités, juste pour les provoquer.
Ah oui.
Et d'un seul coup, tout le monde dit, mais ce Raimi, c'est de blasphème, ce que vous faites. Il dit, écoutez, si Dieu existe et qu'il me voit dans quel état je pense à lui, s'il ne me pardonne pas, ça veut dire que c'est un con.
Drôle.
Donc, avec dans une telle ambiance, donc forcément, je me posais beaucoup de questions.
Un papa qui, très jeune, vous avez constitué, Atik Raimi, vous l'avez raconté, une bibliothèque idéale. J'aime bien cette, comme s'il y avait des auteurs idéaux, mais voilà, en se disant, il lui faut à la fois les classiques français, les poètes persans.
Mon père, il était germanophone. Ma mère et ma soeur, mon frère, anglophone. Donc, pour mon père, par exemple, il voulait absolument tous les livres germanophones, mais traduits par les Iraniens, bien sûr, en persan. Et, par contre, il avait une intention assez importante pour la littérature française.
Ouais.
Comme il était juge, donc, son livre de chevet, c'était Les Misérables de Victor Hugo. Et à l'âge de 15 ans, j'ai lu ce livre-là en persan, et que ça m'avait bouleversé. Donc, je rêvais, à ce moment-là, quand même, c'est étonnant, des égouts de Paris.
Des égouts?
Oui, parce que dans ce livre, il y a 50 pages que sur les égouts de Paris.
Ouais.
Et là, je dis, là, la littérature, c'est ça, en effet. Et puis, mon père, il adorait justement la figure de Jean Valjean.
Donc, forcément.
Quand il aimait quelqu'un des amis, il les appelait Jean Valjean. Donc,
C'est drôle. Une autre figure de Paris, peut-être. Écoutez ces mots-là, je pense que ça peut résonner dans la tête du futur réfugié culturel, comme vous dites, qui se retrouvera ensuite à Paris.
On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence.
Les fleurs, les animaux, le bleu du ciel, le bruit de la musique, je sais pas moi, tout. Et toi?
L'ambition, l'espoir, le mouvement des choses, les accidents, quoi encore, je sais pas moi, enfin tout.
Tu vois, j'avais raison il y a 5 ans. On ne comprend jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Ça, c'est un dialogue qui devrait plaire aussi à Frédéric Schifter, de ne pas savoir quoi faire. Pierrot le Fou, forcément, Godard, qu'est-ce qui l'inspirait, qu'est-ce qui, dans votre tête, de type qui déboule ensuite à Paris
Oui, parce que moi, c'est vrai que j'avais 11 ans, justement au moment où mon père était en prison, je suis entré au lycée franco-afghan. Et là, j'ai découvert le cinéma français, j'ai connu les films de Godard, et aussi des films de Claude Sauté. Quand je suis arrivé en France, en 85, bizarrement, je parlais encore pire qu'aujourd'hui, le français, donc je comprenais pas grand chose, mais je me suis jamais senti étranger dans cette ville.
Par les films, par les livres aussi.
Exactement. Ouais. C'est pourquoi je dis à chaque fois, j'ai l'impression que je suis né en Inde, incarné en Afghanistan et réincarné en France.
Ouais. Ça en fait des réincarnations. Autre décor, roman d'enfance avec vous, Frédéric Schifter. Vous êtes né Frédéric Dubois, ai-je lu ? Ça sonnait pas assez Schopenhauer, philosophe, ça sonnait trop français. Vous faites une drôle de tête quand je vous demande ça.
D'abord, c'est pas Frédéric Dubois, mais c'est une erreur encore, mais c'est pas grave.
Bah, vas-y,
c'est pas grave.
Corrigez, allez-y.
Non, mais ça n'a pas d'importance. Bon, bah, ça n'a pas d'importance parce que je suis très content de m'être rebaptisé. Et non pas avec en allant chercher un pseudonyme, mais en allant chercher dans ma famille un nom qui existait, mais qui avait été effacé par le temps, et dans l'état civil de mon arrière-grand-mère qui était Tzigane, j'ai retrouvé ce beau nom de shifter. C'est un nom de métèque, d'accord ? Et je ne déteste rien tant que les gens qui se réclament d'une appartenance, et qui fondent leur jeu dans un « nous » ou dans un « on » et qui se forgent une sorte d'identité collective pour mieux effacer leur singularité individuelle. Bon.
Renaissance, rebaptisée.
Rebaptisée. Et shifter, je trouve que ça sonne bien. En plus, on ne sait pas trop.
C'est
vaguement germanique. En réalité, mon arrière-grand-mère était ce qu'on appelle aujourd'hui une Rome. Bien, donc une romanichelle, comme on disait à l'époque, comme dans Tintin et les bijoux de la Castafiore, vous savez, ça commence par des romanichelles qui s'installent non loin du château de Moulinsart. Donc ce sont des gens mal aimés, etc., des voleurs de poules, des brigands. Et surtout, c'est qu'ils n'ont pas de terre à revendiquer. Ils ne revendiquent aucune terre, ils n'ont aucune terre. Voilà, ils sont des nomades, et j'aime bien cette idée-là. Et cette femme s'appelait Elisabeth Shifter, et je trouvais que le nom de mon arrière-grand-mère valait la peine qu'il le fût repris par un garçon en plus qu'elle n'a jamais connu.
Mais vous êtes né sur une autre terre, non ? Vous êtes né.
Moi, je suis né en Afrique.
C'est ça.
Je suis né.
Il n'a pas toujours vécu à Biarritz, quoi.
En Haute Volta.
C'est ça.
Je suis né à Bobo Dioulasso. C'est un gag. Donc, vous voyez, bon. Et j'aurais pu naître à Ouagadougou, mais je suis né à Bobo Dioulasso. Et après, j'ai vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 8 ans. Mon père est mort et ma mère a décidé que nous nous installerions à Biarritz.
Décalage.
Voilà, donc ayant échoué à Biarritz.
Échoué. les pauvres habitants de Biarritz.
Voilà, mais c'est très beau. C'est une île, c'est un asile aussi d'une certaine façon. C'est un asile poétique. Il y a les embruns, il y a la mer, il y a l'océan. Et puis oui, c'est une station balnéaire. Et l'hiver, je vous garantis que quand je suis arrivé à Biarritz dans les années 68, par là, Biarritz, l'hiver, est une ville abandonnée, c'est une ville fantôme.
Et le dimanche soir, peut-être que le jeune homme surfeur que vous étiez sur les plages de Biarritz, écoutez ça.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
Chet Baker, forcément, et Frédéric Shifter me dit c'est mon hymne.
Oui.
C'est vrai que vous rêviez, avant la philo, d'être chanteur sentimental, crooner.
Si j'avais pu être un crooner, mais le problème c'est que je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer du piano, d'aucun instrument de musique. Je suis nul pour ça. Donc la seule chose que j'ai su, ou peut-être que j'ai cru savoir-faire, c'est lire des philosophes, des littérateurs, des grands auteurs, et peut-être enseigner ce goût-là.
Ouais.
Bon, alors peut-être que j'étais un professeur de charme, j'en sais rien.
Ah, dit-il.
J'aimerais, mais j'en suis pas sûr.
En même temps, ces chansons-là sont des chansons tristes, comme vos penseurs à vous sont des penseurs tristes, les Schopenhauer, les Montaigne. Mmh. C'est pas anodin, ça non plus.
Eh bien, parce que
on est moins déçus par les gens tristes finalement.
D'abord, je trouve que les gens joyeux me tapent très vite sur le système. Je les trouve bruyants, je les trouve souvent vulgaires. Je crois que la joie est une passion vulgaire. La tristesse est une passion secrète, silencieuse. La tristesse. Hein. Et puis elle a donné de très belles.
Fait sourire, Dick Raymond.
Elle a donné de très belles musiques. Par exemple, la bossa nova, qui est une. Moi, j'adore la bossa nova. Vous venez de passer de Chet Baker, qui est un crooner triste aussi. Hein. Bon, de toute façon, les crooners sont tristes. Ce sont des mélancoliques. Ce sont des types qui ont toujours peur de flancher en présence des femmes, d'être de mauvais séducteurs. Ce sont des espèces de losers splendides, quoi. Bon. Non, moi, je pense que la mélancolie, moi, j'ai expliqué moult fois pourquoi je l'étais, parce que tout simplement, j'ai vécu très tôt le deuil de mon père, qui semblait être un homme immortel, quelqu'un sur qui reposait le monde. Et puis, quand vous apprenez que ce pilier du monde s'effondre, que le monde n'est plus le monde, dès lors, vous ne pouvez plus croire en grand-chose, d'une certaine façon. Et surtout pas dans des paires de substitution comme Dieu, par exemple.
Mais peut-être dans Schopenhauer et Montaigne, c'était peut-être des paires de substitution.
Non, parce que justement, ce sont des gens qui font écho à votre tristesse, mais qui ne vous donnent pas des certitudes de remplacement. Ils ne peuvent pas faire office de père, du tout. Ils sont toujours des penseurs du doute. Montaigne le premier, évidemment. Et puis ce sont des briseurs d'illusions. Et c'est pourquoi je les aime. Je les aime pas comme des pères, mais comme des grands-oncles, en fait. Et des oncles qui ont envie de secouer leur neveu, un peu de le déniaiser.
J'imagine les dîners de famille imaginaires.
Exactement.
Avec Frédéric Schifter et Atik Raimi ce soir.
La nuit, je rêve encore à toi. Pardonne-moi si c'est indécent. Saint-Antoine ne m'aidera pas à te retrouver. Cette fois, je pense à toi. Par ma fille, j'attends la mort jusqu'à ce que tu viennes.
Je pense à toi, c'est Benari sur France Inter et ce soir nous explorons les rêves de l'écrivain Atik Raimi et du philosophe Frédéric Schifter.
To be or not to be?
Dans tes rêves.
That is the question.
Laurence Garcia.
Et l'écrivain Atik Raimi, le philosophe essayiste Frédéric Schifter, ce soir, être ou ne pas être, la fameuse question. Vous vous dites, Atik Raimi, en Afghanistan, la grande question, c'est pas celle-là. La devise, c'est dire ou ne pas dire. Et ça change pas mal de choses, mine de rien.
En effet, parce que la religion d'un côté, la politique de l'autre côté, on est resté toujours dans une sorte de non-dit. On a du mal à dire ce qu'on ressent, soit par pudeur, soit justement par cette erreur politique et religieuse. Donc la parole chez nous est plutôt existentielle que communicative. Oui. Donc d'où la présence de la poésie, d'où les métaphores, etc. Donc est toujours trouvé de dire les choses d'une autre manière. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis des siècles et des siècles.
Et c'est vrai, quand on pose une question à quelqu'un, il va répondre par une poésie qui ne s'arrête, une histoire qui n'a pas de fin, et on repart dans une autre histoire ensuite. Et c'est la façon de communiquer aussi, ou de supporter mieux le réel, ou des questions qui...
Justement, à chaque fois, on essaie de fuir la réalité et le réel. On est toujours dans l'imaginaire, on est toujours dans les métaphores, bien sûr. Donc, on vit les mille et une nuits en permanence.
Oui, c'est ça, dans les rêves en tout cas.
Exactement. Et lorsqu'on raconte une histoire, lorsqu'on écrit, c'est pas juste, comme disait l'écrivain américain.
Lequel?
Le fameux Stephen King.
Ah oui.
Dans, mais lui, il disait, de temps en temps, j'écris des livres pour gagner ma vie et de temps en temps pour ne pas la perdre.
Ah.
Donc, en effet, nous, c'est plutôt pour ne pas perdre la vie. Donc, qu'on a besoin de rêves, on a besoin... Parce qu'on ne peut pas vivre tout ça dans la vie quotidienne.
Justement, je rebondis, mais Frédéric Schifter, vous qui écrivez dans ces journées perdues que vous avez vécues durant plusieurs années à Biarritz, la nuit, l'onirisme, le rêve, ce sont des temps perdus ou gagnés, pour le coup? Pour le philosophe...
Ce sont des temps à part. C'est ni gagné, ni perdu. Ce sont des temps à soi. Ce dont on rêve, c'est de soi peut-être autrement. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a dans les rêves ce phénomène étrange, c'est qu'on ne meurt pas dans les rêves.
Ah, ça dépend.
Ah.
Non,
soi-même, on ne meurt pas. On se réveille avant.
Ouais.
On se réveille avant.
Ouais.
Ah oui. Non, c'est très étonnant. Non, bon, ça, ou alors, si vous avez rêvé cela. Bon. Non, mais on se réveille toujours avant cette extrémité, hein.
Ouais.
Et c'est bien la preuve que si la mort vient nous hanter même la nuit comme ça sous la forme d'un cauchemar, parce qu'il s'agit d'un cauchemar, c'est bien que le réel ne nous lâche pas. Que nous y pensons, mais sur un autre mode, qui est celui de l'onérisme. Bon, mais c'est très important. Et c'est pour ça que je pense que, effectivement, le sommeil, c'est le temps à soi. Pas le temps perdu ni gagné, c'est le temps à soi.
Ouais, ouais. Le petit gamin qui rêvait d'autres mondes dans sa bibliothèque idéale, Atik Raimi, vous citez souvent Camus. Camus qui rêvait de réconcilier le sage oriental et le héros occidental. Hein. Ce sont des mots qui vous causent, ça?
Oui, parce que Camus, évidemment, pour nous, pour tous les gens de tiers-monde, les intellectuels de tiers-monde, c'était une figure importante, bien sûr. Et moi, à l'époque, quand je lisais Camus en Afghanistan, c'était vraiment pour prendre distance avec mon frère, surtout.
Déjà, oui, déjà, encore. Déjà, oui, encore. Ouais. Oui, parce que pour lui, c'était plutôt un écrivain bourgeois.
Un écrivain bourgeois, capitaliste,
c'est
voilà.
Ça.
Donc, mais ici en France, quand je me suis replongé dans l'écriture et dans la lecture des œuvres de Camus, notamment son journal, toujours, il citait cette phrase magnifique, il a cité trois, quatre fois dans ce carnet, l'homme devient ce qu'il pense. Et c'est vrai, c'est une pensée très profonde en Inde.
Ouais.
Si on ne comprend pas ça, on peut pas comprendre vraiment l'Inde non plus. Donc, c'était ça, en effet.
Réconcilier le sage et le héros, c'est un sujet de philo, ça, Frédéric Schifter?
Oui, mais un dimanche soir, c'est un peu
compliqué. Ah non, mais je vous demande pas un déroulé, thèse, antithèse, synthèse. De toute façon, vous êtes le premier à dire que la philo, ça sert à rien. Que le philosophe est un homme inutile.
Ah non, mais ça, il a toujours été un homme inutile, hein, de toute façon. Parce que si on veut être utile, il ne faut pas faire de la philosophie. Il faut être plombier, médecin.
Certes.
Et là, on rendra beaucoup plus de service à la société. Le philosophe se donne pour mission, si c'est une mission, de réfléchir au réel, à la manière dont les humains se débrouillent avec, s'arrangent avec le réel ou ne s'en arrangent pas, justement. Est-ce que c'est très utile, cela? Parce que finalement, les humains vivent sans tenir compte jamais des analyses des philosophes. Par exemple, quand on dit que les philosophes du XVIIIe siècle, les Lumières, ont préparé la Révolution française et ont en quelque sorte préparé une nouvelle civilisation avec l'homme, les droits de l'homme, etc. Bien sûr, c'est une blague. Aucune pensée n'a jamais renversé le monde, ni une situation sociale. Ce sont les circonstances sociales qui font en sorte que tout cela change.
Ouais.
Alors, maintenant, le philosophe doit éviter le bavardage. Peut-être pas pour atteindre à la poésie, mais disons pour atteindre une certaine intelligence du monde.
Mm-hmm.
Mais l'intelligence du monde, ce n'est pas le transformer. Hein.
Atik Raimi.
Alors.
Nous, tout à fait d'accord. Mais en effet, comme l'art, comme l'écriture, évidemment, avec tout ça, on peut pas changer le monde. Mais on peut changer de monde. Donc, ce changement, c'est-à-dire d'un seul coup. Ça me permet de prendre une certaine distance par rapport à cette réalité et de l'analyser, de le voir autrement. Pour nous, les auteurs, les écrivains, sans philosophie, on ne pouvait pas écrire.
Ouais. Oui, puis en même temps, quand même, à Tikra Emi, vous avez animé pas mal d'ateliers d'écriture pour des jeunes, notamment à Kaboul, voilà, pour peut-être faire en sorte que les nouveaux guides soient culturels et pas spirituels. Donc, il y a un côté écrivain embarqué qui se sent utile aussi. On parlait de philosophe inutile ou l'écrivain embarqué.
Oui, mais je comprends ce que Monsieur Frédéric Schiffer parle de l'inutilité de la philosophie et tout ça. Mais en effet, je crois que tout est acquis ici. Donc, en effet, on se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça, par rapport à l'existence, par rapport est-ce que la philosophie sert à quelque chose ou non. Mais quand on vit dans un autre pays, comme par exemple comme en Afghanistan, où il y a toujours la guerre, toute la politique, la réalité est dure, et d'un seul coup, la poésie prend une autre dimension. On ne résout pas, évidemment, les problèmes réels de pays avec cette poésie.
Mais on s'en échappe aussi à...
En effet, ça permet de fuir la réalité d'une certaine manière.
Dire ou ne pas dire, être ou ne pas être.
Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation sinking.
Elle s'appelle Jeanne Haddad et c'est bien.
Dans tes rêves.
As-tu peur de voir les étoiles? Je peux te montrer comment les atteindre.
Messieurs Atik Raimi, Frédéric Schiffer, un philosophe, un écrivain, il est bientôt minuit. C'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire et comme à chacun de mes invités, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez, je profite de votre noir intérieur pour vous raconter une petite histoire. La nuit, c'est bien connu, on se refait les films de nos vies. On revit le premier jour du reste de ta vie. Et ouais, ça commençait déjà par des cris, des larmes. Les premières d'une longue série. Et toi, dans ta tête de bébé, tu les trouvais déjà un peu bizarres, ces grands avec leur sourire hébété, leur histoire de divine enfant à dormir debout. Dreams are mine. Des larmes encore, et oui, c'était le premier jour de ta vie d'ex, quand Christian, en jean moulant, a préféré danser avec la grosse Stéphanie. Elle n'avait rien d'une divine pourtant. Mais il est où mon doudou? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette conne? Le premier jour de ton permis B, la bagnole de tes parents en vrac, tout ça à cause de ce chauffard, tu t'en souviens aussi? T'as eu la trouille de ta vie, mais pas un cri, pas une larme. Ce n'était que de la tôle, comme a dit papa, même si le Renault Espace lui avait coûté un bras. Et ce jour où t'as claqué la porte de ce fichu job en CDI, tu t'es senti enfin libre. Libre de dire non, alors que tu passais ton temps à dire oui. Bon, allez, pleure pas. Des cris, des larmes, il y en aura. Des oui, des non, il y en aura. Mais profite bien du premier jour, du reste de ta vie. Car tu ne seras pas tous les jours ce fameux divin enfant. Messieurs, les yeux fermés, à chacun ses scénarios nocturnes. Si franchement, dans vos rêves, vous aviez le pouvoir de tout faire, de tout refaire, de réécrire, d'enlever une virgule, un point, un chapitre de votre histoire ou de ne rien supprimer, qu'est-ce que vous feriez, Atik Raimi ? Les yeux fermés.
Ah oui. Ah. Non, je me laisse emporter même par mes cauchemars.
C'est vrai ?
Ouais.
On assume tout, on n'a pas envie de réessayer une autre version d'histoire, hein, puisqu'on connaît la suite.
Non. C'est ça, je... Parce qu'en effet, dans le rêve, on s'affronte à beaucoup de choses qu'on essaye de mettre de côté dans la journée, bien sûr. Et comme un écran souvenir, comme disait l'autre. Donc c'est... Voilà, ça devient une sorte de matière pour moi. Matière à réfléchir, matière à écrire. Et dans tous mes romans, il y a forcément... Il y a des histoires... que j'ai conçu dans mes rêves ou que j'ai vu dans mes rêves.
Les yeux fermés, Frédéric Schifter, si vous aviez le pouvoir de recroiser ce gamin que vous étiez, qui était plutôt en colère ou mélancolique, qui n'avait plus ce papa, ce héros, qui, imaginez un autre monde du côté de Biarritz, là-bas. Avec du recul, qu'est-ce que vous le diriez à ce môme mécontent?
Bon, mais mon père n'était pas un héros, mon père était un homme comme un autre. Non, je crois que je ne changerai rien, parce que d'une certaine façon, mon père, en mourant, a fait naître celui que je suis devenu. Par conséquent, je ne changerai rien. Et je pense que je continuerai à nourrir le chagrin. Moi, je crois pas qu'il faille guérir de ses peines, de ses plaies. Je dis pas qu'il faut gratter dessus, c'est pas ça, mais il faut pas les nier. Je pense que il y a la douleur et ou le chagrin sont toujours assez féconds pour un écrivain, pour un artiste en général, mais enfin bon. Voilà, non, je changerai rien. Quant au monde, eh bien qu'il se débrouille, moi.
Qu'il se démerde sans moi. J'ai autre chose à faire. Ou à ne rien faire, en fait. C'est bon, messieurs, vous pouvez réouvrir les yeux.
Merci.
Même pas ça, hein, quoi, fermer les yeux. Pourtant, vous le faites souvent, vous.
Oui, je ferme les yeux.
Pourquoi le « ah, merci » ?
Mais vous disiez tout à l'heure, minuit. C'est l'heure du crime.
Et pareil, pas toujours non plus.
Et pourquoi on n'inviterait pas les auditeurs à tuer le lundi ?
Ah, joli symbolique.
Qui va commencer, le tuer dans l'œuf.
Ah ouais, et donc on passerait directement au mardi en fait.
Oui, ou dimanche d'après. Oui.
Faut tuer tous les jours de la semaine. Ce n'est pas possible, monsieur, ce n'est pas... Enfin, tout est possible dans cette émission, vous me direz. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette jolie rencontre croisée entre vos
merci
mots
à vous.
Dessine-moi un dieu, c'est chez Actes Sud Junior, signé Atik Raimi et Bruno Salamone. Journée perdue, Frédéric Schifter aux éditions Séguier, avec vous-même sur la couverture.
Pas du tout.
C'est pas vous ?
Non.
Ah bon ? Bah, il vous ressemble.
C'est une photographie de plateau, cinéma.
Oui.
C'est l'acteur italien qui joue dans La Grande Bellezza.
D'accord.
Mais on a choisi la photo parce qu'il y avait un vague air de ressemblance.
Ah bah quand même. Ouais. Effectivement, c'est ma doublure. Merci beaucoup, à très bientôt messieurs, belle nuit. Et ne tuez pas trop les lundis, les mardis, les vendredis.
Merci bien.
Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.